travers Romains, à Romains 12, dans versets 1 et 2, où nos pensées sont renouvelées. C'est pas que nos pensées sont fixes, mais ma pensée est transformée. Mais j'ai la capacité, j'ai toujours la capacité d'écouter des mensonges ou d'être blessé ou des désappointements ou une mauvaise image de soi-même. Mais il me renouvelle constamment et il me renouvelle de nouveau. Et je vais dessiner ce que j'essaie d'expliquer ici. Ici, on voit un homme avec une nouvelle pensée. Qu'est-ce qu'il change en nous? Quelles sont les choses que Dieu nous donne qui sont différentes ou donne à l'homme différemment? Une des premières choses est c'est la pensée de Dieu. J'avais peur de Dieu avant. Jusqu'à ce que Christ vienne dans ma vie, et ensuite j'ai commencé à aimer Dieu. Et je suis rendu compte que Dieu m'aime aussi. Mais j'avais peur. J'avais peur d'avoir trop de lui. Parce que je ne savais pas qui il était. J'avais peur de lui. Ensuite, nous crions Abba, Père. Parce que papa, mon père, Dieu, Jésus, à travers l'esprit. J'étais en Pennsylvanie dans un arrêt de bus. Et il y avait un chauffeur avec des tatous partout, des cheveux longs. Il était assis tout seul. Il faisait peur. Je suis allé vers lui avec un tract, avec un message. Une petite brochure. Il a pris la brochure, il l'a regardée, il m'a dit: je suis sauvé, je suis né de nouveau. Et je lui ai dit: comment est-ce que tu es né de nouveau? Il m'a dit: j'ai reçu Christ dans la prison, en prison. Et je lui ai demandé: qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et il m'a dit: j'ai reçu la paix. Et je conduis en disant Jésus, je dis le nom Jésus, et je dis Jésus, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Dieu l'a sauvé et l'a transformé sa pensée au sujet de Dieu, que Dieu est mon ami, que Dieu m'aime, que Dieu est mon père. La deuxième chose, nous devons avoir une nouvelle pensée sur nous-mêmes, une image de nous-mêmes, une compréhension de nous-mêmes. Il a commencé à s'aimer. Le chauffeur en prison a commencé à s'aimer, avoir de l'amour propre. C'est un problème pour les gens, parce que nous sommes tellement déçus par nous-mêmes que à cause des choses que nous avons faites, que nous avons manqué, toutes les choses qu'on a manqué, tout ce qui s'est passé dans nos vies, c'est vraiment décevant. Mais nous commençons à réaliser que Dieu nous aime, il nous a pardonné, il a tout oublié, tous mes péchés, il ne veut même pas s'en souvenir. C'est dans les mers les plus profondes, plus loin que l'est de l'ouest. Derrière, les péchés sont derrière lui, ils ne peuvent pas être trouvés et Dieu ne s'en souvient pas. J'ai péché récemment. Et si quelqu'un d'entre vous peut dire: j'ai commis un péché récemment, ne dites pas ces choses à vos voisins, mais si vous ne pouvez pas dire j'ai péché, alors je ne sais pas. C'est pas une mauvaise chose de dire que j'ai péché, de reconnaître que j'ai péché. Et la pensée est venue. Quand je meurs, Est-ce que tu vas dire à tout le monde quels étaient mes péchés, ce que j'ai fait mardi, le mardi passé? Est-ce que tu vas leur dire combien j'étais un hypocrite, comment j'ai failli et comment je réponds pour moi-même? Mais je pense que vous êtes tous un petit peu étonnés, vous ne savez pas quoi faire. Mais dites-moi, est-ce qu'il va se souvenir de mes péchés dans les cieux? Et pourquoi dans Matthieu 11, il est dit que nous devons rendre compte pour chaque parole que nous avons prononcée sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il a dit que tout ce qui est couvert va être découvert et va être sorti des ténèbres? Pourquoi il dit ceci dans l'évangile de Matthieu? Parce que pour le non-croyant, les livres vont être ouverts et les livres des œuvres de tout ce qu'ils ont fait, et ils vont être jugés à travers ces livres. Mais pour le croyant, quel livre est ouvert? C'est le livre de la vie, et c'est le nom qui est écrit, et il n'y a pas de record d'enregistrement de péché, de tout ce que nous avons fait, mais simplement du nom. Mais il y a un autre livre, le livre des souvenirs, comme ce matin, et quand nous avons crainte de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, il est écrit, ces choses-là sont écrites dans un livre, le livre des souvenirs. Dieu change nos pensées à travers, ou point 3 aussi, les pensées envers nos frères et nos sœurs, comment nous pensons à eux. Et je connais des chrétiens qui disent que je vais à l'église, mais c'est plein d'hypocrites. Mais je dis vraiment, comment est-ce que vous savez que c'est plein d'hypocrites? Est-ce que vous savez tout? Vous connaissez chaque chose de ces gens? Comment vous savez que c'est plein d'hypocrites? Quand nous disons ces mots, utilisons ces mots, toute personne, tout le monde, et l'Église est pleine d'hypocrites. Pour dire ces choses-là, vous devez connaître toute chose, ou bien c'est une accusation. C'est l'homme naturel qui parle, mais l'homme naturel n'aime pas son frère, ne peut pas discerner le corps de Christ, ne peut pas connaître le mystère de Christ dans le corps de Christ. Mais quand nous sommes transformés, nous avons une autre façon de voir l'Église. Mes frères et mes sœurs sont des cadeaux. Ils vont m'aider à édifier mes enfants, à élever mes enfants. Ils vont m'aider à être des amis en ma fin de vie. C'est comme cela que nous atteignons le reste du monde à travers l'Évangile. Ils sont aussi faillis, mais ils nous sont donnés. Et j'ai été content de savoir quand ils m'ont dit « Nous allons aller au temple de Dieu ». C'est une pensée transformée qui pense de cette manière-là. Il y a aussi un autre groupe. Il y a des non-croyants. Les voisins. Ce sont des groupes différents. Nous avons les frères et sœurs, nous avons les voisins. Qu'est-ce que vous pensez de vos voisins? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Est-ce qu'ils ont besoin d'encouragement? D'une parole Il y a des gens qui sont... Cain a tué son frère. Et Paul a dit... Délivre-moi de ceux qui n'ont pas la foi. Mais d'une autre manière, je ne peux pas être un juge non plus de mes voisins. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de Christ. Nous sommes des ministres pour eux. Il y a aussi une autre parole ici, que Dieu a changé ma vue sur ton passé. Dans le point 5, et de votre futur. Et vous pensez à votre passé. J'ai un filtre sur mon passé. Dieu a utilisé mon passé. Peut-être ça peut être difficile, il y a des choses difficiles dans mon passé, mais ces choses-là ne vont pas définir ma vie, parce que Christ m'a donné son cœur et sa pensée, et à travers l'Esprit Saint, je peux vivre dans le futur. Mais mon passé ne va pas définir qui je suis. Mais c'est une partie de mon passé, fait partie de ma vie, mais ne me définit pas. Parce que nous avons des pensées transformées, nous méditons sur la parole et ce qu'il nous dit. Et pour notre futur, c'est aussi brillant que les promesses de Dieu. Notre futur est rempli de buts éternels. Notre futur est spirituel. Nos pensées sont des opportunités d'aider pour aider quelqu'un qui a des besoins, notre pays. Et ce que je pense sur le futur de notre pays, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Vous vous souvenez ce que John Kennedy a dit, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. C'est comme une prononciation spirituelle. Je ne demande pas ce que je peux recevoir, mais je peux être comme Christ dans ce monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment est-ce que je peux aider pour notre pays, notre église, nos familles, notre mission? Peu trop longtemps. Nous allons faire reviser acte 26. Ce que je voulais dire, c'est ce point-là, la pensée renouvelée. C'est aussi la pensée renouvelée et subit la résistance. Qui c'est qui résiste? Qui résiste vos pensées renouvelées? Qui résiste votre façon de penser qui nous dit que nous sommes adoptés par la grâce de Dieu parce que nous avons la pensée de Christ dans 1 Corinthiens 2:16? Qui résiste la pensée de Christ? Qui résiste cette façon de penser? Qui veut avoir ce chauffeur de camion, être découragé en prison et d'être fâché qui est celui qui décrit et qui détruit, qui assassine, qui détruit toute chose? C'est le diable. Qui voulait que ce chauffeur trouve une nouvelle pensée? C'est Jésus-Christ. Quand nous avons cette façon de penser, il y a beaucoup de joie, il y a la liberté, il y a la pureté, il y a la justice. Dans Actes 26, l'apôtre Paul se tient devant le conseil. Et c'est organisé par des leaders qui l'ont amené à Césarée. Les Romains ont amené à Césarée pour le protéger. Et maintenant, il y a un conseil qui est arrangé. Et ils veulent qu'il soit silencieux. Ils veulent qu'il arrête son ministère, qu'il arrête de prêcher de Jésus. Ils veulent qu'il retourne sur ses anciennes voies. Ils veulent l'arrêter. Ils le rendent silencieux. C'est comme vendredi à Washington DC, il y avait une marche pour la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont... Il y avait des milliers de gens qui sont allés. Beaucoup de jeunes gens qui ont marché pour la vie. les enfants pourront être nés, que l'avortement, c'est toute cette issue de l'avortement soit vue d'une manière différente. Ne pas contrôler notre population, de ne pas faire des décisions pour des jeunes femmes qui sont en difficulté. Ne pas encourager une vie promiscueuse en disant que l'avortement est pour les vies de promiscuité. Mais de dire que l'enfant qui dans le ventre est une vie précieuse. D'enseigner aux jeunes gens et de jeunes femmes comment vivre, comment d'aimer, comment d'écouter leurs paroles, d'honorer leur père, leur frère, de vivre par les 10 commandements. C'est vraiment simple. De ne pas tuer. Pourquoi est-ce que je veux voir des films qui montrent des meurtres, qui tuent? Ça fait partie de notre culture aujourd'hui. C'est quoi votre pensée? Ce sont des bonnes pensées, des pensées transformées, excitées sur Christ, qui croit, qui partage et qui aime, qui amène nos enfants et petits-enfants. Donc, James Kirby est décédé l'autre jour, la semaine passée. Il avait une belle famille. Il était le principal dans notre école ici. Et nous savions ce qu'il allait se passer. Il était en paix. Il a prié qu'il puisse mourir dans son sommeil. C'est que Dieu a répondu à cette prière. Et quand vous savez, quand votre pensée est transformée, la mort est difficile en soi. Mais quand nous quittons notre corps, alléluia, nous allons être dans la présence de Christ avec une pensée transformée. Je ne sais pas si je peux. J'ai essayé mercredi soir, je ne suis pas allé très loin. Je vais dans verset 1, chapitre 26. Agrippa dit à Paul, il n'est permis de parler pour ta défense. Il t'est permis de parler pour ta défense. Des fois, dans ce monde, nous sommes enseignés de ne pas parler pour nous-mêmes, de parler pour notre famille, pour notre idéologie, pour notre pays. Mais nous avons été enseignés de parler pour nous-mêmes. Ce que je crois, ce que je pense, je peux dire moi-même. Tu nous apprenons ces choses-là par Dieu, en écoutant Dieu qui nous dit comment nous devons penser, et je crois ceci dans mon cœur. Et un jour, je vais de me tenir devant Dieu, et je parle pour moi-même, ce jour-là. Mais comment est-ce que je sais ce que je crois, ce qui est important, qui doit m'être donné de Dieu? Petit à petit, nous le recevons à l'église. Petit à petit, en lisant proprement votre Bible. Mais n'arrêtez jamais. Ne continuez à lire votre Bible, parce que Dieu va vous parler à travers une bonne attitude, avec la prière. Et alors, à ce moment-là, vous êtes capable de parler pour vous-même. Je suis dans le verset 2. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Quand nous sommes transformés, quelqu'un est prêt à vous accuser. Mais quelles sont ces accusations que nous pouvons écouter à l'université, à l'école publique, dans un campus, par les professeurs? Vous êtes né de nouveau, vous êtes un évangélique, vous êtes un créationniste, vous ne croyez pas à la science ou à l'évolution, vous êtes obtus. il y a quelqu'un qui est prêt de vous accuser et qui vous résiste. Mais je me suis rendu compte qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je suis autorisé de parler pour moi-même. Je ne déteste pas mon voisin. Vous savez, comme nous vivons devant Dieu avec une pensée nouvelle, dans verset 3. Car tu connais parfaitement leurs coutumes, leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Vous êtes un expert. Il y a des gens qui sont experts dans les choses sociales, dans des experts sur l'homosexualité, la drogue. Il y a des experts sur le globalisme, le nationalisme, dans la religion, les différentes idéologies. Bien sûr qu'il y a des gens, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un expert de ce que Dieu dit dans la Bible, qui grandit dans la compréhension qui vient de Dieu? Parce que dans Job 33, il est dit qu'il y a 1000 personnes, mais il y a une seule sur 1000 personnes, il y a une seule personne qui parle de Dieu, qui parle pour Dieu. Quand Christ est venu, il était le seul. Ensuite, il a eu des disciples. Ensuite, il y a eu 3000, puis 5000. Dans verset 6, il est dit, et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse des dieux faite à nos pères. Et quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? J'aime beaucoup ce verset 8. Pourquoi ce soit incroyable que puisse ressusciter les morts? C'est beaucoup plus incroyable que Dieu va prendre un œuf avec un sperme d'un homme et d'une femme et va multiplier tout cela des millions ou des trillions, des milliards de fois. Et quel est le plus grand miracle? La naissance d'un bébé ou la résurrection d'un mort? Je ne sais pas ce que Paul dirait, mais moi je sais ce que je pense. Et c'est que la naissance d'un enfant est beaucoup plus incroyable. Et voilà. Dans le verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. J'ai essayé de... Messieurs du conseil, j'étais contre le nom de Jésus, j'étais aussi contre, avec vous, en accord, de se débarrasser de Christ, de Jésus-Christ, j'essaie aussi d'être de cette manière. Mais à midi, dans le verset 13, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi. » Ensuite, Paul dit au conseil cette histoire. C'est une histoire incroyable. Peut-être vous ne croyez pas en cela, mais Paul l'a cru, il l'a vu, il s'en est souvenu. Dans trois fois, se répéter dans le livre d'Actes, devant ses adversaires. C'était convaincant pour lui, c'était clair pour lui, dans sa tête, ça s'est passé. Au roi Agrippa, ceci s'est passé. Il n'y a pas de question. Il y a Festus, ça s'est passé. Mais vous pouvez me parler toute la journée, mais vous n'allez pas changer ces choses-là. Vous ne pouvez pas me retourner. Je sais ce que je suis aujourd'hui, et ce que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup mieux ce que j'étais avant. Et la façon dont j'étais avant a changé par la grâce de Dieu, parce que je crois en celui qui nous a été donné par Dieu. C'est aussi simple que cela. Pourquoi est-ce que vous résistez cela? Pourquoi est-ce que vous résistez ce que je crois? Pourquoi est-ce que vous résistez les fruits de ma vie? Pourquoi vous résistez le témoignage que j'ai? Vous ne pouvez pas m'empêcher. Parce que dans ce monde, il y a la puissance, il y a des idées, il y a l'orgueil. Ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours des résistances. Et ça va se passer jusqu'à Jésus revienne, et ça n'arrêtera pas. Il faut s'habituer. Et croissez dans vos foies. Devenez mature dans la foi. Parce que Dieu communique à travers la Bible dans notre église, dans les services, dans nos raps, dans nos collèges bibliques, dans nos enseignements, nos formations. Nous sommes formés pour rencontrer Christ. Et ça va être un jour où nous serons contents. Parce que nous pouvons dire, j'ai déjà vécu ce moment. J'étais sur la terre, mais c'était comme si j'étais à l'église. J'étais dans les lieux célestes, en Christ. Parce que quand je vivais dans le corps mortel, les anges savent tout cela. Nous n'aurons pas cette conversation avec les anges, mais nous allons réaliser que nous avons déjà vécu cette formation, cet enseignement, et de comment la pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme. La dernière partie, dans le verset 22, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Jusqu'à 2020, en janvier 2020. Comment est-ce que vous êtes arrivé aussi loin avec l'aide de Dieu? Et j'ai continué avec l'aide de Dieu, j'ai obtenu l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour par l'aide de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a été jaloux de nous et veut nous transformer chaque jour et de nous aider à la façon dont nous pensons et de la façon dont nous pensons de notre passé, de notre futur. Nous avons obtenu le secours de Dieu jusqu'à ce jour et dans un monde difficile. Et nous préférons être sur nos téléphones plutôt que de lire la Bible. Et vous pouvez écouter ou regarder votre téléphone, ce n'est pas mes affaires. Je veux être dans la présence de Dieu en appréciant d'être tranquille devant Dieu et de discerner et de voir ses œuvres et de voir que quelque chose qui me manque si je ne fais pas cela. Dans le verset 24, il est dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Nous allons arrêter ici. Festus a dit à haute voix, pourquoi est-ce qu'il a parlé une haute voix? Pourquoi est-ce qu'il a crié avec une haute voix? Je me demande, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. C'est un homme assis sur un siège et Paul est là. Paul, je n'arrive pas à le faire imiter. Je ne peux pas le faire. Je n'arrive pas à crier à haute voix. Je vais essayer. Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es fou. Il y a trop dans la librairie. Tu es un fanatique. Tu es fou. Paul, c'est une haute voix. Ça peut être intimidant. Ça me rappelle que Oula, la tante de Oula, qui parlait en suédois, un homme américain, et Oula, il ne comprend pas le suédois. Donc elle a commencé à parler en suédois, mais d'une manière de haute voix. Festus. Paul, nous savons que tu résistes. Nous savons que tu résistes, mais quand tu parles à haute voix, ça ne nous convainc pas plus que tu as raison. Tu peux jurer, mais ça ne va rien changer, cet homme. Parce que cet homme a quelque chose qui se passe dans sa vie depuis des années, qui est beaucoup différent de ce qui se passe dans ton cœur et dans ta tête. Tu peux dire simplement que ces gens ont leurs propres opinions. Les gens peuvent avoir leurs propres opinions, mais ils peuvent avoir complètement tort. Et nous pouvons aussi, nous, être dans le tort. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas faux. Et par la grâce de Dieu, vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons cette chose-là que nous savons qui est juste. La tombe est vide, Christ est ressuscité et il a touché nos vies. Pour finir, dans le verset 25, « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Plum. Ce sont des... Je peux chuchoter, je peux parler de ces choses un dimanche matin, d'une manière douce. Ce sont des persuasions. Mes arguments sont clairs, mon approche est solide. Je crois, et c'est raisonnable de croire en ceci. Qui a une réponse pour les morts? Seulement Christ. Qui a une réponse pour mes péchés? Seulement Christ. Qui a une réponse pour mon futur? Seulement Christ. Qui a une réponse pour mon passé? Seulement Christ. Qui a une réponse pour ma vie? Seulement Christ. Agrippa, écoute, dans le verset 27, il dit ceci. Et Agrippa dit, 28, dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir un chrétien. Et qui va être plus persuasif, celui qui crie ou celui qui est raisonnable, sobre et clair dans ses convictions? Qui est le plus convaincant? C'est Agrippa dit, toi Paul, tu vas me persuader de devenir à travers ton témoignage. Paul dit que j'espère que tous ceux qui sont ici soient comme moi. J'espère. Et Dieu a changé ma pensée par rapport à moi-même. Et j'espère que tout le monde soit comme moi. C'est une bonne pensée. Les gens, en général, ne peuvent pas parler comme cela. Je veux que vous soyez comme nous. Je ne suis pas arrivé. Ne devenez pas comme moi. Mais nous sommes les gens qui nous avons une vie spirituelle par la grâce de Dieu. Et nous pouvons dire dans nos cœurs, j'espère que vous allez être comme moi. C'est quelque chose d'incroyable. Ça semble orgueilleux, arrogant. Je ne sais pas. Mais actuellement, c'est quelque chose de juste. Nous voulons... c'est des gens qui sont comme nous, parce que c'est la grâce de Dieu qui qui nous a rendus comme nous sommes. Nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. C'est seulement lui que nous nous réjouissons et nous vantons. Et nous continuons de cela. Nous sommes dans un monde de grands conflits. Où deux mères se rencontrent. La pensée nouvelle de Dieu, la pensée de Christ est résistée dans ce monde. Parce qu'ils ont peur de ceci. Ils ont peur de cette pensée. Ils ne la comprennent pas. Parce que c'est différent. Parce qu'il y a des convictions divines. C'est juste, c'est fait dans la foi, c'est mal compris, résisté, et ça trouble les gens. Mais Agrippa a dit, tu m'as presque persuadé, et nous aurions dû pousser un petit peu plus sur Agrippa de croire. Tu sais qu'il est mort sur la croix, en dehors de Jérusalem. Tu sais que la tombe est vide et personne n'a trouvé son corps. Agrippa, tu devrais croire et devenir comme moi. Ce sont des belles paroles. Ce matin, peut-être, quelqu'un ici, dans l'auditorium, va aussi cherche aussi une vie en Christ. Venez à Jésus ce matin, aujourd'hui, par la foi. Il va prendre tes péchés et mettre ton nom. Vous êtes qui, toujours qui vous êtes, mais vous êtes par la grâce de Dieu, à travers la vie éternelle, un des plus grands dons qui nous est donné par le Fils de Dieu. Dites à Jésus, je crois en vous, je personnellement. Si quelqu'un dans l'auditorium dit cette prière, levez la main, s'il vous plaît. Dites oui à Jésus. Il y a une main ici. Sur la gauche, à droite, derrière, quelqu'un d'autre, pour que je puisse voir qui levait la main. Merci. Merci, Pastor Mike Colby. Ce soir, et au Père, ouvre la parole de nos cœurs, nos vies de tous les jours, dans les décisions que nous faisons, comment nous vivons, chacun d'entre nous, donne-nous un don. Je ne suis peut-être pas le couteau le mieux aiguisé, ou la plus grande, la lumière la plus brillante. Je ne suis peut-être pas si doué ou si intelligent, mais la bonne nouvelle, ce n'est pas basé sur moi. C'est basé sur la confiance en Christ. Et il nous donne sa sagesse et sa pensée. Et il nous aide de plein de manières. Aimez-le, faites confiance. Il va vous diriger. Saluez-vous les uns les autres.